Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé est eurodéputée et vice-président du Parti Les Républicains.
Bonjour Brice Hortefeux.
Bonjour Léa Salamé.
À l'aune des résultats d'hier et du renouvellement annoncé d'une grande partie de la classe politique, est-ce que vous avez l'impression parfois d'appartenir au monde ancien ?
Oui, écoutez, j'entends effectivement que dans les slogans du président de la République, il y a l'avant, écoutez, et l'après. Moi, je connais avant Jésus-Christ, je connais après Jésus-Christ. Il faut quand même retomber un peu sur terre. Mais si vous me permettez...
C'est-à-dire Emmanuel Macron n'est pas Jésus-Christ, c'est ce que vous essayez de nous dire. Ceux qui n'ont pas compris.
Je pense que tout le monde a compris. Et la réalité, c'est que ce scrutin, évidemment, il y a beaucoup de leçons à tirer. La première leçon, cela a été dit, mais peut-être qu'on n'en a pas encore tiré les leçons. Et c'est les conséquences en tout cas. Et c'est l'importance de l'abstention, une abstention aussi massive, aussi générale, aussi inédite. On ne peut pas la balayer d'un revers de main et l'oublier.
Comment vous l'expliquez, selon vous, cette abstention qui a beaucoup pesé aussi chez vos électeurs. Hein. Les électeurs de droite ne sont pas allés voter.
Oui, vous avez tout à fait raison, avec quand même une précision, c'est que pour le parti d'Emmanuel Macron, il y a un électeur sur sept, simplement, qui lui apporte son suffrage. Donc c'est aussi un signal.
Oui, mais ces électeurs sont allés aux urnes, contrairement à vous.
Et j'imagine qu'ils l'ont perçu. Les explications, je pense que la première, que tu peux être une explication partagée, c'est que trop de votes, tu le votes. Et nous en sommes au septième scrutin en un an, et il y a quelque part un épuisement de la démocratie. Et la deuxième raison, c'est que il n'y a pas eu de présentation des programmes, il n'y a pas eu de confrontation des projets, il n'y a pas eu tout simplement de débat. Et je suis très frappé, je me suis beaucoup déplacé, j'ai soutenu beaucoup de candidats, et finalement, à chaque fois, je voyais dans le regard de ceux qui étaient en face de moi dans les salles, qu'on ne comprenait pas les différences qui sont pourtant énormes. Différences en matière fiscale, différences en matière de justice, différences en matière de politique énergétique, différences concernant la conception de l'État, différences en matière de politique familiale.
Peut-être que les électeurs ont du mal à comprendre les différences quand ils voient que Emmanuel Macron a pris comme Premier ministre quelqu'un de chez vous et à Bercy deux ministres de chez vous. Et donc ils se disent peut-être que c'est blanc bonnet et bonnet blanc.
Oui, écoutez, là-dessus, moi, je suis très décidé à dire très exactement ce que je pense. Donc, concernant l'attitude de ceux auxquels vous faites référence, c'est certainement politiquement efficace, moralement, honnêtement, c'est pas ma tasse de thé.
Pourquoi ?
Parce que, et je comprends très bien que l'on réponde à une main tendue, mais à condition qu'il y ait quelque chose dans la main. Et là, on pouvait prendre même un microscope, on ne voyait rien.
Un poste, peut-être ?
Oui, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que, politiquement efficace, mais en revanche, moralement, à mon avis, assez douteux.
Édouard Philippe a fait une faute morale en acceptant Matignon ?
En tout cas, je ne partage pas cette conception de la vie publique.
Alors, la droite ne devrait avoir qu'entre 70 et 110 députés dimanche prochain. C'est moitié moins qu'aujourd'hui. Jean-François Copé, hier, a parlé d'un désastre. Est-ce que vous employez le même mot ce matin ?
En tout cas, c'est bien sûr un échec. Ça serait stupide que de le contester. Une observation simplement factuelle en passant. Nous étions troisième à l'élection présidentielle. On est second à l'occasion des élections législatives. C'est pas une consolation, naturellement. Pas totalement bené quand même. Mais il n'en reste pas moins que c'est une observation qui ne peut pas être contredite. Pour autant, est-ce que ça veut dire que c'est suffisant? Non. D'ailleurs, j'entends le mot renouvellement. Bien sûr, le renouvellement, c'est important. Mais nous, autour de François Baroin, de Laurent Wauquiez, 60% de nos candidats étaient de nouveaux candidats ou de nouvelles candidates. Mmh. Donc le renouvellement, c'est quelque chose qui est partagé aussi.
Un mot sur le résultat. Neuilly, fief historique de Nicolas Sarkozy, un des bastions imprenables de l'UMP ou du RPR, feu RPR et UMP, des Républicains. La République En Marche obtient 42%. Et votre candidate, Constance Le Grip, uniquement 21%. Comment vous expliquez ça à Neuilly ?
Je l'explique déjà avec un constat très simple, c'est que à Neuilly, il y avait plusieurs candidats qui se réclamaient de la droite républicaine. Et Constance Le Grip est arrivée en tête, largement en tête, des candidats de la droite républicaine. Et je m'en réjouis. Et je m'étais d'ailleurs déplacé aussi pour la soutenir. Donc je pense que le scrutin, sur cette circonscription qui ne comporte pas que Neuilly, je vous précise qu'elle comporte aussi plutôt et une partie de Courbevoie.
Bon. Quelle position il faudra prendre en cas de duel FN En Marche ? Est-ce que vous appellerez clairement à voter pour En Marche.
Écoutez, c'est totalement marginal. Le débat a été tranché. Je ne souhaite pas y revenir. Dans de nombreux cas, je comprends très bien qu'on s'y arrête. Là, c'est que totalement marginal. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et ce qu'a dit François Baroin, j'en suis solidaire.
D'accord. Donc, c'est la fin voilà. d'une. Vous parlez de François Baroin et de Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, le grand problème chez vous depuis 5 ans, depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, un immense problème de leadership? Il y a eu la guerre Fillon-Copé, il y a eu les primaires fratricides, il y a eu la chute de la maison Fillon. Qui, aujourd'hui, peut incarner la droite républicaine?
Oui, mais moi qui suis un fidèle de Nicolas Sarkozy et qui n'entend pas changer, qui n'entend pas le masquer, ça permet aussi, effectivement, de rappeler que le dernier à avoir gagné sur nos idées, c'est Nicolas Sarkozy. Le dernier à avoir rassemblé notre famille politique, à avoir mis autour de la table tous ceux qui voulaient la renverser, c'est Nicolas Sarkozy.
Il a permis en place un successeur, un héritier?
Bien sûr que si. Il a encouragé François Baroin, il a encouragé Laurent Wauquiez, il a encouragé un certain nombre d'autres. Mais maintenant, si vous voulez me faire dire ce que je vous le dis avec beaucoup de force, de détermination et de conviction, oui, il va nous falloir construire et reconstruire une droite qui soit une droite forte, qui soit une droite populaire, une droite sociale.
Avec
forte.
Qui?
Mais forte, surtout pourquoi? Forte, c'est-à-dire qu'il y ait une conception du respect de l'État. Ce qui n'est pas le cas avec ce que fait Monsieur Macron, les décisions qui ont été prises concernant Notre-Dame-des-Landes, où on annonce la 10e médiation, alors qu'il y a eu 168 décisions de justice et un référendum, c'est quand même assez inattendu. Une droite qui soit populaire, c'est-à-dire qui soit attentive aux questions de sécurité, aux questions de migration. Monsieur Macron trouve très bien la politique allemande qui a accueilli 1 million d'immigrés supplémentaires. Je trouve, c'est pas ma conception. Et enfin, une droite sociale, c'est-à-dire qui soit attentif notamment au pouvoir d'achat. Et je pense à la politique familiale. Lui ne propose à rien en matière d'universalité des allocations familiales. Ouais. Nous, précisément, nous proposons de la rétablir. Mais vous voyez, ça fait des différences.
Justement, quand je vous entends ce matin, je me demande, ceux de chez vous qui voteront la confiance à Emmanuel Macron, est-ce qu'ils doivent être exclus?
Mais attendez, la confiance, vous me parlez de confiance, mais confiance sur quoi? On ne sait pas ce qui va être dit. Nous avons eu des mots, des sonorités, des postures, et des qualificatifs, mais on ne sait pas ce qui va être proposé. Vous savez, la confiance, c'est très simple. Il y a ceux qui veulent la voter les yeux fermés. Eh bien, je suis sûr que les membres des Républicains, ça ne sera pas le cas. Ils peuvent la voter, mais les yeux ouverts, en fonction de ce qui sera dit.
Un mot sur Henri Guénaud, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est son électorat est à vomir.
Henri Guénaud est original et devient marginal.
Brice Hortefeux était notre invité ce matin. Belle journée à vous.
Merci à vous, Léa Salamé, les 8h-3.